tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, procès Thomas Sankara, l'interrogatoire de Jean-Pierre Palme, ancien patron de la gendarmerie, s'est poursuivi ce matin. Face à l'incapacité des autorités de la transition au Mali à respecter le calendrier électoral, la CEDEAO durcit les sanctions contre les militaires au pouvoir, des sanctions individuelles qui vont de l'interdiction de voyager au gel des avoirs. Kémi Séba attaque l'État burkinabé devant la Cour de justice de la CEDEAO pour détention arbitraire, atteinte à la liberté de circulation, à la liberté d'expression, au droit à la défense, une annonce faite par ses avocats. Et puis notre invité du jour est Luc-Adolphe Thiaw, le dernier premier ministre de Blaise Compaoré. Après avoir quitté le CDP, l'ex-parti au pouvoir, il a lancé ce week-end son propre parti politique, le Rassemblement Patriotique pour le Développement. Procès Thomas Sankara, suspendu jeudi dernier, l'audience a repris ce lundi matin avec l'audition de Jean-Pierre Palme. Le colonel-major de gendarmerie à la retraite est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Abdoul Fattah Tiemtoré, bonjour. Abdoul Fattah Tiemtoré? Des difficultés pour joindre notre reporter Abdoul Fattah Tiemtoré. Nous reviendrons sur cette actualité plus tard. Et c'est une confidence faite hier au cours de votre émission Dimanche Politique. Si Blaise Compaoré n'est pas au procès Thomas Sankara, c'est parce qu'il va mal. Il chercherait même à regagner son pays, selon Luc-Adolphe Thiaw, le dernier premier ministre de Blaise Compaoré. Le président du Faso Roch Kabore a pris toutes les dispositions pour que l'ex-président rentre dans la dignité. Écoutons Luc-Adolphe Thiaw.
La grande décision qu'on peut retenir d'abord sur le Mali, le constat a été fait qu'il n'y a pas une réelle volonté d'arriver vers les élections qui étaient prévues en février. D'ailleurs, le président en exercice de la CEDEAO...
Le président Compaoré, lui, il m'a dit, ça je peux le dire clairement, en octobre 2020, je l'ai vu à Abidjan, on a échangé, il était déjà souffrant, il m'a dit, Luc, j'aimerais rentrer. Et quand je suis rentré, j'en ai parlé à un ami qui est proche du président Roch Kabore. Pour le dire sincèrement, j'ai dit, mon cher ami, j'ai vu le président, sincèrement, j'ai eu pitié. Faites pardon là, pour qu'il puisse rentrer. Et lui-même, il veut rentrer. Parle de sa situation au président. Bon, je ne sais pas, d'autres personnes ont dû lui parler. Donc, il a pris tout ça en compte et il a proposé donc d'accueillir le président. Et de ce que aussi j'ai appris, de sources quand même fiables, il a pris toutes les dispositions permettant d'accueillir le président dans des conditions respectables. Et je pense que des dispositions pratiques pour son accueil, pour sa sécurité et son hébergement ont été prises par le gouvernement, par le président Kabore. Et si Blaise Compaoré n'est pas rentré, il doit avoir d'autres raisons.
Est-ce que ce n'est pas le dossier Thomas Sankara?
Pas du tout. Moi, je pense que c'est sa santé. Il faut aussi que les gens soient humains.
Et on retourne à Ouagadougou, à la salle des banquets de Ouagadougou, où se déroule le procès Thomas Sankara. Abdoul Fattah Tiemtoré, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Omega.
Alors Jean-Pierre Palme ne reconnaît pas les faits et aujourd'hui la question de la table d'écoute est revenue dans les débats. Que retenir de la suite de l'audition de Jean-Pierre Palme?
Comme vous l'avez dit, la question de la table d'écoute est revenue. Vous savez, le colonel-major de gendarmerie Jean-Pierre Palme, capitaine à l'époque des faits, est soupçonné d'avoir conduit des étrangers, des Français notamment, pour aller détruire du matériel d'écoute, une table d'écoute notamment au niveau de la gendarmerie nationale. Quelques temps après le coup d'État du 15 octobre, il précise déjà que cela ne s'est pas passé avant donc sa nomination en tant que commandant de la gendarmerie, et que c'est donc en fin novembre, lorsqu'il était commandant de la gendarmerie, l'équivalent aujourd'hui du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, que son supérieur, donc le chef d'état-major à l'époque, le commandant en chef des armées, Lengani, lui avait donné l'ordre de conduire effectivement des Français pour faire le point du matériel qu'il y avait au niveau de la gendarmerie, parce que les Français donc allaient offrir une nouvelle table d'écoute. Alors il estime donc qu'on n'a pas besoin d'amener des Français pour arrêter une table d'écoute. Selon lui, c'est un bouton qu'on appuie et c'est à l'ONATEL qu'on peut le faire. Les gens ne le savent pas, précise-t-il. Selon lui, en réalité, cette table d'écoute ne servait à rien parce qu'elle ne stockait pas de données systématiquement. C'est un instrument d'interception et personne ne peut l'arrêter à partir de la gendarmerie. Et je ne vois pas pourquoi un nouveau régime va détruire un instrument de sa propre protection, a-t-il ajouté, donc pour sa défense. Et puis, il y a cette question également d'arrestation qu'il a opérée pendant donc cette période du Front populaire, les quelques mois qui ont suivi donc le coup d'État du 15 octobre 1987. Selon Jean-Pierre Palme, c'était un comportement en période d'exception, et il fait référence d'ailleurs au CNR, à la Révolution, sous laquelle également les arrestations se faisaient de cette façon-là. Il suffisait de recevoir un ordre du supérieur et il fallait s'exécuter. C'est une chance pour nous tous d'être dans un régime démocratique, dit-il aujourd'hui, parce qu'à une période donnée, c'était ça où vous êtes mort. Voilà ce qu'il a dit sur cette question-là. Et puis, il y a eu cet échange-là entre l'accusé et l'avocat des partis civils, maître Prosper Farama, qui s'étonne que le militaire, capitaine à l'époque, deuxième gradé de la gendarmerie à l'époque, n'ait pas pris d'initiative quand il a entendu des tirs en ville en provenance du Conseil de l'Entente. Il pose cette question, il a demandé l'autorisation au juge pour inverser donc l'ordre et poser la question à l'avocat. Le jour où Cappuccino a été attaqué à Ouaga, est-ce que tous les militaires se sont retrouvés au Cappuccino, a-t-il interrogé l'avocat, qui répond: je ne pourrais pas vous renseigner parce qu'à cette époque, je n'étais pas militaire. L'interrogatoire, Brigitte, de Jean-Pierre Palme vient de s'achever. Il y a un autre accusé à la barre en ce moment, Ninda Tondé, dit Pascal, poursuivi pour subornation de témoins.
Abdoul Fattah Tiemtori, merci pour toutes ces informations. Justice toujours, Kémi Séba attaque l'État burkinabé devant la Cour de justice de la CEDEAO pour détention arbitraire, atteinte à la liberté de circulation, à la liberté d'expression, au droit à la défense. Une annonce faite par ses avocats dimanche. On rappelle, l'activiste panafricain Kémi Séba a été arrêté le 29 octobre dernier alors qu'il se rendait à Bobo-Dioulasso, où il devrait prendre part à une manifestation contre le néocolonialisme au Burkina. Il aurait ensuite été expulsé du pays, selon les responsables de la marche. Et puisqu'on parle de la CEDEAO, il s'est tenu hier à Accra un sommet extraordinaire. Principale décision, le durcissement des sanctions individuelles contre des dirigeants maliens et guinéens. S'agissant du Mali, la CEDEAO a annoncé dimanche avoir été informée officiellement par les autorités de la transition malienne de leur incapacité à respecter la date des élections prévues le 27 février 2022, marquant la fin de la transition. Elle a donc décidé du gel des avoirs et de l'interdiction de voyage des membres du gouvernement et de leurs familles. Il faut rappeler que le Mali et la Guinée sont déjà suspendus des instances de la CEDEAO. Le point du sommet extraordinaire de dimanche tenu à Accra avec Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères.
La grande décision qu'on peut retenir d'abord sur le Mali, le constat a été fait qu'il n'y a pas une réelle volonté d'arriver vers les élections qui étaient prévues en février. D'ailleurs, le président en exercice de la CEDEAO dit avoir reçu une communication officielle du président malien de la transition sur la demande d'un report de l'élection, mais sans autre précision. Donc, en conséquence, la conférence des chefs d'État a décidé de mettre des sanctions individuel à l'encontre de toutes les autorités de la transition, et ces sanctions-là concernent donc l'interdiction de voyage, concernent donc aussi le gel de leurs avoirs, et ce sont des sanctions qui sont appliquées aux membres du gouvernement et à toutes les autorités qui sont donc impliquées dans la transition, également aux membres de leurs familles. La CEDEAO va donc examiner d'ici le sommet ordinaire qui est prévu le 12 décembre à Abuja, faire le point. S'il n'y a pas d'autres avancées, va aller vers donc d'autres types de sanctions qui pourraient être peut-être des sanctions économiques et financières.
Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères. Il faut noter que les dirigeants de la CEDEAO ont également condamné l'expulsion de leurs représentants au Mali. En Guinée, la CEDEAO exige la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé samedi dernier à Ouagadougou une conférence de presse dans le cadre de la 16e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo, placée sous le thème édition et marché du film, du livre, pardon, Burkina Faso. La foire va se tenir du 25 au 28 novembre prochain sur le site du CIAO. Le compte-rendu d'Irène Kiema, Emilienne Compaoré, avec la voix de Régis Bonny.
L'objectif principal de cette foire est d'encourager les professionnels de la filière à apporter leur contribution au développement d'une industrie du livre burkinabé dynamique et compétitive. Élise Ilboudo, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme.
La Philo est une biennale qui a été instituée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme avec pour objectif de créer un cadre de concertation entre les acteurs et professionnels du livre. Offrir une tribune à la promotion du livre et à la lecture. Intégrer le livre et la lecture dans les efforts d'alphabétisation des communautés. Positionner le livre et la lecture comme un adjuvant aux actions d'émancipation et de développement national. Offrir un espace de promotion de la presse, de l'édition et de l'imprimerie nationale. Sont attendus à cette édition une centaine d'exposants composés de professionnels de l'édition et de la distribution, des auteurs, des bibliothécaires et environ 8000 visiteurs.
L'occasion a été mise à profit par la ministre de la Culture pour dévoiler la principale innovation qui est l'instauration d'une Olympiade nationale. Par ailleurs, plusieurs villes prendront part à cette édition.
Pour cette édition sont la mise en lumière de la coopération avec la Fédération de Wallonie-Bruxelles qui place le livre et la lecture comme une priorité d'action. Pour cette édition, les Olympiades littéraires nationales seront organisées dans quatre régions, le centre-ouest, le nord et les hauts bassins. L'autre innovation, c'est la diversification des ateliers de formation au profit des écrivains et des éditeurs, avec la prise en compte du théâtre et un genre de moins en moins pratiqué.
Pour cette édition, le Grand Prix du Livre, d'une valeur d'1 500 000 francs CFA, sera décerné à un poète. L'ambition du comité d'organisation de la Philo est de décentraliser la foire à l'ensemble des 13 régions à l'édition 2023.
Et puis le directeur général de la loterie burkinabé a procédé vendredi dernier à la remise d'un grand lot. L'heureux gagnant a misé la somme de 600 francs CFA au 4+1 du pari urbain. Il repart avec plus de 49 millions de francs CFA. Le compte rendu d'Irène Nikema, Emilienne Compaoré et Bruno Bayala.
Martin Ilboudo est le représentant de l'heureux gagnant de ce jour. Il a misé la somme des 600 francs au 4+1 du 26 octobre 2021 et repart aujourd'hui avec plus de 49 millions de francs CFA. Il reçoit des mains du directeur général de la Lunabé son chèque, des félicitations et des invitations à une bonne utilisation de cette somme. Patrice Naza, directeur général de la Lunabé.
Nous avons tout à l'heure prodigué des conseils dans le sens d'une bonne utilisation, d'une utilisation à bon escient de cette somme-là. 49 millions, je pense que c'est plus que suffisant pour démarrer une activité qui peut se révéler très porteuse en termes de création de richesses.
Un message qui est bien entendu par l'heureux gagnant du jour. Martin Ilboudo entend développer son commerce avec cette somme.
J'ai des projets. Ce que j'ai eu aujourd'hui, je pense que je vais investir dans la construction et développer mon commerce.
Rappelons que le 27 septembre 2021, la Lonabé a procédé à la remise des lots aux gagnants de la 27e édition de la tranche commune entente 2021. Le directeur général de la Lonabé encourage donc les parieurs à toujours tenter leur chance.
Omega Sport.
Tour du Faso 2021, l'Allemand Daniel Bischelmann a remporté la 33e édition. Maillot jaune depuis la 8e étape Coupe Ripo, l'Allemand a confirmé sa suprématie hier dimanche lors de l'étape finale, la 10e Combisiri Ouagadougou. Le maillot vert récompensant le cycliste le plus noté au point et le maillot jaune, le maillot rose des points chauds est revenu à l'Algérien Hamza Yassine. Le Burkina s'en sort avec le maillot du meilleur jeune cycliste décerné à Paul de Mont. La 10e étape, longue de 129,5 km, a été remportée par le Rwandais Gustave Basson de l'équipe sud-africaine. Une étape finale présidée par le ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale, représentant le chef de l'État, Zéphirin Diabré, a salué l'ensemble des Burkinabés pour la bonne marche de ce Tour du Faso.
Le Tour du Faso est l'activité sportive, comme dans le cyclisme, qui ne se déroule pas dans un endroit clos et en un seul endroit, mais qui a cette faculté-là de se dérouler en créant la conjugaison entre toutes les communautés d'un pays ou de plusieurs pays, et en faisant en sorte que des liens se tissent entre elles pendant que le tour se déroule. Et on a assisté en tout cas à un engouement des Burkinabés pour ce tour-là, comme c'est toujours le cas, une adhésion et un soutien massif qui a permis que les choses se passent comme on souhaitait, et c'est donc l'occasion de remercier tous les Burkinabés et de les féliciter.
La revue de presse.
Les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Accra hier ont fait l'objet de commentaires dans les parutions du jour. L'organisation durcit le temps face au premier responsable de la junte au Mali et en Guinée. Reste à savoir si cela va produire des effets escomptés. Les journaux ont affiché à la une Luc Adolphe Thiaw, qui regagne l'arène politique à la tête d'un nouveau parti politique. Ce parti naissant a l'ambition de réconcilier les Burkinabés et de sortir le pays de sa situation actuelle. La lecture croisée des parutions de ce lundi 8 novembre est proposée par l'Iradan Philippe Ada.
Évolue désormais aux côtés de quelques 150 partis politiques burkinabés, le Rassemblement Patriotique pour le Développement, RPD. Ce nouveau parti dans l'arène a été porté sur les fonts baptismaux par Béon Luc Adolphe Thiaw, celui-là même qui a piloté la dernière équipe gouvernementale de Blaise Compaoré jusqu'à sa chute en fin octobre 2014. Alors que beaucoup voyant sa démission de l'ex-parti majoritaire ou une retraite politique, pour ce journaliste de profession, il n'est pas question de se reposer, écrit l'observateur Palga. C'est donc le grand retour pour l'ancien premier ministre de Blaise, titre aujourd'hui au Faso. Nous sommes persuadés que les Burkinabés ont besoin d'une nouvelle politique fondée sur la confiance, la réconciliation et dans la paix. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à remuer le couteau dans la plaie, à nous regarder en chien de faïence, qu'à travailler ensemble pour faire avancer notre pays, justifie Luc Adolphe Thiaw dans Aujourd'hui au Faso. En tout cas, Thiaw veut voler de ses propres ailes, affiche l'Obs, le journal qui commente aussi l'actualité au Mali et en Guinée, deux pays à la recherche d'un introuvable calendrier électoral dont les dirigeants sont désormais sous sanction de la CEDEAO. Les dirigeants maliens interdits de voyager, leurs avoirs gelés, affiche le journal Le Quotidien à sa manchette. Pour l'observateur Palga, la CEDEAO fait du surplace dans sa démarche pour ramener les deux pays à la voie d'État avec des pouvoirs démocratiquement élus. En effet, on ne compte plus les allées et venues des missiles domiciles à Bamako et à Conakry, ni les sommets extraordinaires convoqués par l'organisation régionale à ce propos. Le sommet extraordinaire d'hier a-t-il fait bouger les lignes sur les bords du Djoliba et dans le golfe de Guinée? Non, retorque Mondoyen, car à Bamako, Assimi Goïta, Choguel Maïga et les autres dirigeants de la transition ont leur propre agenda politique et ne sont visiblement pas intimidés par les principes, les invectives et les sanctions de la CEDEAO. Pour ce qui est de la Guinée, pointe mon confrère, là aussi la CEDEAO perd son latin quant au principe d'un régime civil démocratiquement élu. Pas sûr que le durcissement des sanctions individuelles de l'organisation régionale contre les premiers responsables de la junte étendue à leur famille change grand-chose dans le tâtonnement actuel des autorités à y définir un agenda politique clair. À aujourd'hui, au Faso donc, de s'interroger, la CEDEAO en père fouettard sera-t-elle efficace? Reste que les prétoriens de Kati comme ceux de Kindia ont intérêt à aller vite, rendre le pouvoir à l'image d'un ATT du Mali ou Salou Djibo au Niger, car, avertit le journal, eux qui sont des militaires instruits, savent bien qu'on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Traité de prestataire par le président du CDP Eddy Kwamboigo, Luc Adolphe Thiaw dit n'avoir gardé aucune rancune. Interrogé par Denis Zungrana, l'ex-premier ministre n'a pas nié les informations faisant cas de propos discourtois de Eddy Kwamboigo à son encontre.
Luc Adolphe Thiaw, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui donc, vous avez décidé de quitter le CDP, l'ex-parti au pouvoir, pour créer votre propre parti. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé en fait à aboutir à cette séparation? Parce qu'après votre retour, on vous a senti un peu assez actif, voilà, du côté donc du CDP. Aujourd'hui, vous décidez donc de claquer les portes. Qu'est-ce qui vous a amené donc à cela?
Non, au contraire. Mon retour, j'ai pris du recul. Je ne voulais pas, a priori, reprendre le fait de la politique. Les gens se sont mis, non. Pratiquement, de 2016, quand j'ai quitté la prison, tout de suite encore, je suis retourné au village, j'ai commencé à m'intéresser aux activités agro-pastorales. Vraiment, la politique ne m'intéressait pas du tout. Parce que j'avais été déjà, quelque part, un peu déçu par le CDP. De retour d'Abidjan, mes camarades donc du parti, voilà, je n'ai pas senti la solidarité auquel je m'étais en droit d'attendre. Alors que même quand j'étais à la MACO, j'ai eu des visites des dirigeants d'autres partis politiques. Donc, tout ça m'avait dit, bon, est-ce que ça valait la peine que je fasse de la politique? Et la famille également non plus n'était pas très, très enthousiaste. Et mais puis après, quand les activités ont recommencé, certains camarades m'en sont revenus me voir pour nous dire, bon, écoute, Excellence, ce serait mieux que vous puissiez revenir, on va essayer de travailler ensemble, voilà, pour que réhabiliter l'image du CDP et permettre à ce parti aussi de se remettre en plein dans le jeu politique. Malheureusement, je suis venu, j'ai repris mes activités politiques à un moment où le CDP a commencé déjà à traverser des crises successives. Et justement, ce que je peux dire, mon engagement a été de faire en sorte que d'apporter une contribution pour atténuer les crises.
Alors aujourd'hui, il revient justement que c'est la gestion d'Eddy Kwamboigo qui pose problème. Est-ce cela vraiment qui vous a fait partie?
Bon, il y a plusieurs paramètres. Moi, d'abord, je peux dire que mon échec électoral, et en bon démocrate, moi, j'ai reconnu ma défaite. Mais ça fait quand même mal que je n'ai pas pu passer et je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui n'étais pas en mesure de convaincre les électeurs ou bien c'est le parti dans lequel je suis qui pose problème? Est-ce que l'électorat ne voulait plus du CDP, l'électorat du sanglier? Est-ce que c'est ça? Donc, en réfléchissant à toutes ces questions, j'ai commencé à prendre du recul, mais aussi je voyais que le CDP était rentré rapidement en hibernation. Et il a commencé encore à avoir des problèmes internes. Étant membre du Haut Conseil, un Haut Conseil qui a joué un rôle important, je crois, dans la résolution des crises du CDP aussi, qui a accompagné le président Eddy, nous nous sommes sentis un peu marginalisés à un moment donné. Et de réflexion en réflexion, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une nouvelle génération qui est là. Cette génération préfère travailler avec d'autres personnes. Il y a eu donc tous ces paramètres qui m'ont amené tout simplement à dire, bon, au lieu de continuer à traîner dans un parti où je ne vois plus le rôle que je peux jouer, où je n'avais plus l'impression que je pouvais faire quelque chose de bon, qu'on me consultait plus sur des questions importantes, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, je vais sortir.
Il nous revient néanmoins qu'il y a souvent de ces paroles, d'aucuns affirmaient justement que Eddy Kwamboigo traitait certains de prestataires, ce qui nous est revenu. Est-ce cela qui vous a beaucoup le plus choqué?
Les gens n'attendent pas qu'on soit dans les débats terre à terre. Non, les gens veulent voir de la vision.
Ça dit que vous avez entendu, mais bon, vous avez...
Oui, j'ai entendu, non, mais vous voulez que je prête. Je me dis, non, c'est des gens qui ne me connaissent pas. C'est des gens qui ne me connaissent pas.
Donc vous avez entendu néanmoins
qu'il bien sûr, il y a eu des gens sur... Oui, il y a eu des gens...
Il n'a pas dit grand-chose.
Je n'ai jamais... Ça m'a rien dit.
Savoir pourquoi est-ce qu'il
non, tient non, je me dis c'est déjà qu'ils ne comprennent pas la politique, c'est tout.
Parlons de Dikombe Ogon.
J'ai dit que...
À l'instant, notre invité Luc Adolphe Thiaw, dernier Premier ministre de Blaise Compaoré, il a lancé ce week-end son propre parti, le Rassemblement Patriotique pour le Développement. C'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendrebego. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, des infos.